En décembre dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, le recteur de l'Université Laval dénonçait les compressions imposées par le gouvernement marois. Il disait alors qu'il était impossible de couper ailleurs dans son budget. On apprend ce matin dans le Journal de Montréal que s'il devait quitter aujourd'hui Denis Brière, le recteur de l'Université Laval recevrait une indemnité de départ de 165 000 $, soit la moitié de son salaire. Ça, c'est un petit encadré dans le Journal Montréal qui passe pratiquement inaperçu. Et moi, ça me dit que finalement, dans les universités, question budget, on fait pas tellement d'efforts, on change pas tellement notre façon de faire. Avec nous, le président du syndicat des chargés de cours de l'Université Laval, Patrice Freitag. Monsieur Freitag, bonjour. On va parler dans un instant des conditions de travail des chargés de cours à l'Université de Laval, M. Freitag. Mais l'article dit aussi, l'article du Journal de Montréal, les indemnités de départ de 8 autres dirigeants des cadres, évidemment, varient au total entre 80 et 96 000 $ pour un total d'environ 700 000 $. Ça s'ajoute aux 165 000. Alors ça, ce sont des indemnités de départ qui sont prévues aux membres de la haute direction une fois leur mandat complété. C'est pas une critique personnelle, mais d'après vous, après la crise étudiante qu'on a vécue l'an passé, est-ce qu'il y a eu un réaménagement dans la gestion des fonds publics à l'Université Laval?
Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a eu vraiment de grands changements. On fonctionne sur le même type de pattern. On a pu observer ces dernières années une augmentation de tout ce qui touchait l'administratif qui était vraiment exponentielle par rapport à, si on regarde la courbe par exemple des professeurs, l'engagement des professeurs qui reste bien à droite et qui monte jamais malgré la tâche qui est à assumer, c'est pareil pour les chargés de cours. Donc effectivement, on est sur ces modèles-là et il faudrait y voir un peu plus clair. Nous, par exemple, dans nos demandes, on demande d'avoir une petite prime de départ à la retraite. Il y a eu quoi, 4-5 personnes cette année qui a bénéficié, enfin l'année dernière, et ils veulent nous l'enlever. Alors c'est vrai que quand on a vu ces primes de départ, j'avoue que les bras nous en sont tombés un peu.
Parce que vous une prime de départ, ça serait combien environ?
En fait, il faut avoir donner plus de 100 cours pour avoir une prime de départ à la retraite, ça veut dire être resté déjà un bon bout de temps, avoir enseigné longtemps, et puis c'est un calcul qui est pris sur les 5 dernières années, mais qui est en plus dégressif, c'est-à-dire à 60 ans on a une prime, mais à 65 on n'a plus rien, je veux dire, c'est,
ah oui.
C'est un peu particulier comme prime de départ à la retraite, enfin, elle est calquée sur celle des professeurs en fait, c'est plus pour pousser les gens dehors, alors que c'est pas la même situation pour les chargés de cours.
Mais je reviens là-dessus, là, Monsieur Freitag, là, on voit des primes des indemnités de départ pour les cadres dans les universités. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a la décence d'expliquer ces primes de départ parce que c'est de l'argent public? Et moi, j'aimerais savoir, à un moment donné, est-ce qu'on peut mériter les primes, les bonis, les cadeaux qu'on reçoit? Est-ce que ça s'explique, ces primes de départ, ces indemnités à l'Université Laval, comme dans toutes les autres universités?
Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, qu'est-ce qui mérite ce genre de cadeau, en fait? C'est vrai que c'est étonnant. Dans un service, disons public, même si l'université n'est pas exactement un service public, c'est un service public quand même, c'est étonnant de voir qu'on puisse bénéficier de tels avantages alors qu'on les boude pour ceux qui sont tout en bas de l'échelle.
Vous vous souvenez, la CREPUC, la conférence des recteurs des principaux des universités du Québec disait d'abord manquer de 620 millions de dollars, ensuite 850, et parlait même d'un milliard de dollars. Et je vais vous faire écouter Daniel Zizian, à qui j'ai parlé en janvier dernier, M. Freitag. Oui. Vous allez voir où je m'en vais pour ma question. On l'écoute.
De votre côté, les recteurs là devraient être transparents et répondre à toutes les questions parce que c'est notre argent, c'est pas le vôtre.
Ben, monsieur Dutrisac, s'il y a une organisation qui rend des comptes, la reddition de comptes se fait de façon continuelle.
C'est faux.
Moi, je vous dis que oui, il y a des efforts qui sont faits dans l'ensemble de la gestion administrative des universités pour réduire les coûts.
En question de transparence, on n'arrive pas à avoir des réponses aussi simples que pourquoi on accorde des indemnités de départ. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un effort de transparence chez les recteurs?
C'est vrai qu'on n'est pas au fait de tout ce qui se passe à l'université, c'est impossible. C'est vraiment une grosse machine, l'université. Quand on essaye d'éplucher les comptes, comme on le fait en ce moment, et quand on a essayé d'analyser s'il y avait vraiment un sous-financement, ou si c'était un définancement, ou si c'était un mal-financement, bon, on s'est aperçu qu'il y avait des transferts du fonctionnement, donc ce qui va normalement directement aux salariés, aux enseignants, donc à l'enseignement, et puis que ça allait pour les parkings, le macadam, le béton, etc. Bon, il y a tout un ensemble de décisions comme ça qui sont un peu qui posent question. Et lorsqu'on essaye d'en savoir plus et de rentrer dans le détail, on a beaucoup beaucoup de difficultés. Il y a à reconnaître que c'est très complexe. C'est pas facile certainement d'être clair dans l'immensité des comptes qu'il y a à l'université, mais il n'y a pas une volonté non plus très engageante de mettre tout ça à plat et qu'on puisse vraiment comprendre comment ça marche. Ceci dit, par rapport aux décisions qui sont prises quant à des primes, comme il y a eu des primes de départ, il y a des primes qui ont été données aux doyens, il y a eu aussi des articles récemment là-dessus. Ça, c'est des décisions qui se prennent en conseil d'administration et c'est de voir un peu comment fonctionnent nos instances et c'est peut-être ça qu'on voudrait remettre en question. Et on a été très 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 inquiet lorsqu'on a voulu mettre que des gens externes aux universités parce que étrangement ce sont les externes qui votent toutes ces primes, toutes ces augmentations de salaire beaucoup plus que les internes, que les personnes internes. Ah oui, ça c'est manifeste, hein. Et de vouloir augmenter le nombre d'externes qui fonctionnent avec des modèles qui viennent de leur entreprise. C'est tous des gens qui viennent des finances, des banques, des grosses entreprises. Eux, pour eux, c'est normal, hein, tous ces bonus, tous ces jetons de présence, toutes ces augmentations, tous ces privilèges, c'est normal dans l'entreprise privée. Ça l'est beaucoup moins dans une université. Une institution d'enseignement supérieur devrait garder quand même une certaine réserve quant au salaire et personne n'est obligé d'être recteur, hein.
Alors d'abord, on devrait vérifier la pertinence des gens qui siègent sur les conseils d'administration des universités.
Moi, je pense que c'est un des gros problèmes. D'abord parce que c'est énormément de travail. Il faut être vraiment au courant de comment marche une université et quelle est sa mission. C'est pas seulement des chiffres qu'on aligne. Donc là, on a un vrai problème. Et lorsque l'actuel président du CA était arrivé avec un projet de gouvernance il y a presque 2 ans maintenant, qui était vraiment un projet qui était calqué sur la loi 38, ça a été refusé par l'ensemble de la communauté universitaire. Il y a eu un comité qui a été créé à la suite de ça parce qu'on avait été choqués de cette proposition. Lorsqu'on sait que c'est la même personne qui est encore président du CA et qui est encore, c'est Monsieur Porter, et qui va être dans le groupe, le chantier qui va s'occuper de gouvernance, on est inquiet. On est inquiet de cette dérive entrepreneuriale. On est inquiet de cette dérive marchande. L'université, c'est pas un lieu pour faire de l'argent. C'est un lieu pour enseigner et faire de la recherche.
Oui, et on ne parle pas d'Arthur Porter.
Non.
Mais là, Monsieur Freitag, la réalité sur le terrain, là, les chargés de cours, vous êtes les misérables dans tout ça, là. Vous crevez de faim, là. On vous donne à peu près 7 000 $ par cours pour enseigner, c'est ça?
Oui, c'est ça. Écoutez, 7 300, j'ai pas le chiffre exact.
Ouais, à peu près.
Il suffit de traverser le pont pour aller à Lévis. Et les chargés de cours gagnent 1 133 $ de plus par charge de cours. Et c'est Lévis, c'est-à-dire c'est lié à Rimouski. La grande université Laval n'est pas capable de payer ses chargés de cours au même niveau que de l'autre côté du pont. On a un problème par rapport à la reconnaissance et au travail des chargés de cours, malgré qu'ils donnent quand même 30% des cours au premier cycle.
Ouais.
Et qui, je pense, sont des gens tous dévoués et compétents. Il y a un problème de reconnaissance et à tel point que ça fait 2 ans qu'on est en négociation. On n'arrive pas à terminer notre négociation avec notre employeur qui a une vision des relations de travail qui remonte plutôt au 19e siècle au 21e siècle.
Mais en même temps, M. Freitag, les gens qui nous écoutent se disent les chargés de cours deviennent éventuellement des professeurs et là, le salaire tourne autour de 102 000 $. C'est quand même plus intéressant.
Oui, d'abord, faut pas oublier que ça prend plus de 5 ans, ça prend au minimum 5 ans pour devenir professeur et il démarre pas à ce prix-là. Et puis ce qu'on oublie souvent de dire, mais quand je t'es professeur, je suis bien placé pour le savoir, sont des gens qui font entre 50 et 60 heures semaine. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup de salariés qui travaillent autant. Et si on les rémunérait au taux horaire, ça ferait pas lourd. Alors, Par rapport au salaire des professeurs, il faut mettre beaucoup de bémols.
M. Freitag, il faut qu'on se laisse, mais avez-vous l'impression que dans tout le débat, le sommet sur l'éducation supérieure, on a oublié les gens sur le terrain, dans les classes, qui enseignent, qui font le travail, et on s'est, encore une fois, beaucoup préoccupé des bureaucrates, des cadres, de s'assurer qu'ils aient des conditions et des indemnités, puis de vraiment privilégier. Est-ce que la conversation sur l'enseignement et l'éducation au Québec a oublié vraiment ceux qui sont dans les classes sur le terrain?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je pense qu'au Québec, plus de 50% des cours sont donnés par des chargés de cours. Et actuellement, nous à Laval, et c'est une situation épouvantable, on est considéré comme une dépense, alors qu'on coûte rien à l'université. Hein. Je veux dire, nos salaires, c'est ridicule par rapport au travail qui est fourni. Coûte vraiment pas cher, on fait vraiment faire des économies à l'université. Un contractuel, quand tu exiges de lui un haut niveau de compétences, ben, tu le payes.
Très bien, on sait ça. Merci, M. Freitag.
Ben, moi aussi, je vous remercie.
Au revoir, Patrice Freitag, qui est président du syndicat des chargés de cours de l'Université Laval.